Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Benjamin Coria.
Bonjour.
Bienvenue professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous publiez Redécouvrir les physiocrates pour une économie, pour une écologie libérale. Je crois que je fais la faute à chaque fois. Hein. Plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique. Il est compliqué le titre, hein, franchement.
Oui, oui. C'est les physiocrates.
Bon, les physiocrates.
Moi, je voulais l'appeler la promesse de D'Alembert, mais mon éditeur a trouvé que c'était encore plus compliqué.
Ah. C'est chez Odile.
C'est plus joli. Moi.
C'est chez Odile Jacob. Et puis, alors, vous êtes aussi membre du comité éditorial de Pour l'écho. On attend le numéro du mois de juin. Au mois de mai, c'était le piège de la décroissance. Les pièges de la décroissance à la une du numéro. Ce qui m'a incité à vouloir faire un jour un débat sur la décroissance avec vous.
Oui.
Et un plutôt favorable, parce que vous allez me dire vous êtes contre la décroissance.
Totalement. Bon. Je suis pour une écologie libérale et donc voilà. Je suis contre la décroissance.
D'ailleurs, notre défi, verdir la croissance sans la casser.
Je trouve que l'écologie libérale, c'est un bel oxymore. C'est pour ça que je serais partant, moi, pour un...
Ah, mais c'est marrant parce que c'est ce que je me suis dit comme vous êtes là ce matin.
C'est pour ça qu'il faut redécouvrir les physiocrates. Physiocrates, en grec, ça veut dire pouvoir de la nature. Mmh. Et les physiocrates, c'est le symbole de l'économie libérale telle qu'elle est née au XVIIIe siècle.
C'est aussi l'entrée dans la dérégulation des marchés.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui.
Nous y sommes. Bon. On parlera de ça en son temps.
À l'époque des physiocrates, on n'a pas encore des marchés boursiers numériques avec des produits titrisés.
Non, mais on avait les marchés des blés entièrement régulés pour permettre aux gens de se nourrir. Et c'est les physiocrates qui les ont dérégulés et qui ont introduit les prix de marché, donc les stocks, la spéculation, etc.
Et donc oui, ça, je suis d'accord avec le fait que ça a introduit la guerre des farines, mais non pas parce que les physiocrates avaient libéré le marché, mais c'est parce qu'il y a eu des émeutes payées par un certain nombre de gens qui voulaient garder leurs privilèges.
Non, ben alors c'est, et après c'est les autres qui sont complotistes. Non.
Non, pas du tout.
Mais enfin, c'est un argument entièrement complotiste. La vérité, c'est que le marché entraîne la spéculation, entraîne les ruptures, et entraîne les hausses de prix. On est en train de le vivre maintenant, et on le vit depuis les physiocrates.
Oui. Et avant les physiocrates, il y avait des famines. Depuis la libération des marchés, notamment agricoles au XIXe siècle par les Anglais, on s'est débarrassé de la disette et de la famine.
Des famines, il y en a. Il n'y a que ça. Il y en a un peu moins dans les pays de capitalisme développé.
Exactement. Dans les pays capitalistes, il n'y a plus de famine.
De capitalisme développé, mais donc à ce moment-là, il faut voir quelle est leur articulation avec les pays dans lesquels il y a l'ensemble des famines. Et vous les connaissez aussi bien que moi, ces articulations.
Et on a sorti l'aide de la misère.
Bon, écoutez, vous l'organiserez ce débat.
À cause de la dérégulation du marché agricole qui avait été imposée par la partie du Congrès.
Oui. Bon, y a un débat. Alors, bonjour André Lezecroupe-Pietri, président de JEDI, à l'agence d'innovation de rupture en Europe et fondateur du Fonds à Capital. Vous vouliez dire un mot sur le débat
Ce qui est quand même assez surprenant, c'est un débat qui dure depuis 200 ans et on a du mal à le trancher quand même. Hein.
Oui, ça, c'est, non, mais c'est vrai. Non, après, il y a un vrai sujet sur la décroissance.
Non, l'histoire a tranché, il y a encore des gens qui refusent d'admettre l'évidence, c'est différent.
Non, l'histoire a tranché sur le fait que la dérégulation conduit à des catastrophes. Et même les gens les plus libéraux vous expliquent que la France est un pays entièrement administré. Donc, je veux dire, ça n'a pas du tout été tranché dans le sens que vous croyez.
Mais c'est ce qui va mal en France, c'est qu'effectivement, c'est un pays que l'on dit ultra-libéral et qui est en fait ultra-administré. C'est pour ça qu'on a une croissance qui est inférieure à 1% et on a une espèce de déclin qui est vécu.
Voilà. Et s'il n'y avait pas ce minimum de régulation, ce qu'on a vu dans les grèves sur les retraites n'est qu'une pâle indication de la situation dans laquelle on serait.
J'ai toujours pensé qu'il fallait un juste milieu dans vos deux points de vue. Hein. Je pense que le zéro régulation n'est pas souhaitable et l'ultra-régulation non plus.
Ben on va pas être en désaccord là-dessus.
On parlera de régulation, je ne sais pas si elle est ultra au niveau européen tout à l'heure avec André Lezecroupe-Pietri. Bon, il n'y aura pas de problème même si on est dégradé, hein, passer de 17 à 16 sur 20, la solvabilité de la France ne sera pas en risque. On a vu que Fitch n'a eu aucun effet sur le taux à 10 ans français, ni l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Jean-Marc, est-ce qu'elle est trop bien notée, la France, finalement ? Parce qu'on est quand même dans le club des pays très bien notés. On est encore à 17 sur 20 et on risque de tomber à 16 sur 20.
Non, mais ça dépend quelle valeur on accorde à cette note. C'est-à-dire que si
La valeur qu'elle a ?
Non, si c'est une appréciation sur la dette publique française en tant que telle, elle est pas assez bien notée. Quand on regarde les premières notations qui ont été faites par des agences de notation sur des dettes publiques à la fin des années 70, elles avaient fixé une règle comme quoi toute dette qui était inférieure, dont la charge était inférieure à 10% du PIB, était considérée comme n'étant pas dangereuse. Et à l'époque, on avait souligné le fait que l'Italie avait une dette qui représentait, dans la charge, représentait 11% du PIB de l'Italie de l'époque. Et maintenant, la charge de la dette, même en Italie, elle est à un peu plus de 3%. En France, elle est à 2%. Donc, il n'y a aucun problème. En outre, cette dette, elle est en euros. Les finances publiques d'un pays, normalement, à part quelques exceptions, sont dans la monnaie de ce pays. Et donc, les prêteurs à l'État réclament des euros et la Banque centrale... plus ou moins sur ces dernières années, a montré qu'elle était disposée à donner aux États, à prêter aux États les euros dont ils ont besoin.
Assureurs et prêteurs en dernier ressort.
Donc le véritable enjeu dans tout ça, c'est que cette note devient de plus en plus une appréciation générale et globale sur le destin politique et économique du pays.
Destin politique et économique.
Et à partir de ce moment-là, bon, la question qu'on peut se poser, c'est la légitimité des agences de notation en la matière. Mais de notre côté, ça ne veut pas dire qu'il faille écarter systématiquement tout ce qu'elles disent. Parce que dans ce qu'elles disent, indépendamment de la légitimité et de la pertinence par rapport à leur objet premier, il y a quand même des évidences, il y a quand même des constats qui sont des constats un peu alarmants sur la baisse de la croissance potentielle, la baisse de la capacité en France de l'État à faire des réformes.
Il n'y a rien de neuf,
mais qu'il est bon de le redire.
Oui.
Reprendre le pays en main.
Vous venez de m'expliquer que ce soir à 22h, c'est juste un non-événement.
En fait. Oui, absolument. Ce qui n'empêche que les problèmes sont toujours là.
Benjamin Coria, Même lecture. Bon, oui. Alors on va pas épiloguer.
Je vais juste rajouter que, comme chacun sait, la sagacité des agences de notation est notoire. Juste avant 2001, Enron était absolument au maximum, et juste avant 2008, les subprimes étaient absolument au maximum. Donc, si vous voulez, vous admettrez que moi, je garde un brin de scepticisme.
Je fais un distinguo entre l'avis des agences dans le secteur privé et effectivement la cécité coupable d'avoir mis des triple A, des produits toxiques américains, tout simplement parce qu'ils venaient de grands établissements qui étaient au-dessus de tout soupçon. Ouais. C'était du Bank of America. Du Citigroup, si on mettait triple A. Et là, effectivement,
je suis d'accord sur le
fait. Et la notation des États, c'est pas la même chose.
Je suis d'accord sur le fait que les firmes et les États, c'est pas pareil. Mais comme c'est à peu près les mêmes personnes et les mêmes services qui font les notations, bon, mais je pense que ce qu'a dit Jean-Marc est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est un espèce de jugement qui permet de conforter le maintien d'une pression sur les déficits de manière à ce qu'ils n'atteignent pas des limites trop importantes, même si ces limites ont beaucoup bougé au cours du temps.
André Lezoucroupietri.
Oui, peut-être un point. Effectivement, c'est un garde-fou. Il y a quand même un aspect prophétie autoréalisatrice. Donc, il y a en fait de plus en plus de psychologie.
Un peu plus près du micro, approchez-le.
Ce qui me frappe, c'est que l'Allemagne, par exemple, qui en ce moment n'est pas forcément dans une meilleure situation que la France, avec une récession là, sur les deux derniers trimestres, des comptes publics qui ne sont pas si bons que ça, a aujourd'hui une note quand même bien meilleure. Pourquoi aussi? Parce que vous avez une volonté qui est aujourd'hui perçue comme plus crédible de réduire des déficits. Donc on est beaucoup sur l'évaluation. Moi, ce que je note quand même, c'est que dans ce monde où on tire les courbes, là, il y a vraiment un parallèle avec l'intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure, on est dans un monde de plus en plus incertain, c'est-à-dire où le passé ne va très certainement pas se reproduire. Donc où est peut-être que ces agences, pour aller dans plus de crédibilité, peut-être doivent se tourner aussi plus sur des aspects recommandations. On est très dans le thermomètre. On a assez peu de suggestions sur comment orienter ces courbes positivement.
Imaginez, alors déjà que les agences se remettent à faire un peu de politique, si maintenant elles font comme la Cour des comptes avec les cahiers de doléances, et on va considérer qu'elles interviennent dans la vie démocratique d'un État, qui poserait un petit problème. Particularité, lorsqu'une agence note un État, elle n'est pas rémunérée pour le faire. Lorsqu'elle note une entreprise, à l'inverse, là, elle est rémunérée. Vous avez commencé à l'évoquer, Jean-Marc Daniel. Le nouveau monde, c'est que la BCE, désormais, est là. Et le moindre coup dur sur un État, la BCE est là, et tout ira bien. C'est-à-dire que la BCE, en fait, on est too big to fail, la BCE le sait, et si on a une petite difficulté, une petite tension sur les taux, la BCE interviendra, elle reprendra gentiment notre dette, et puis...
Le véritable enjeu dans tout ça, c'est la capacité ou la volonté de la Banque Centrale de continuer à financer le déficit de l'État, sachant que ce déficit...
Capacité et volonté.
Volonté. Alors, capacité... Chose. Non, mais capacité, pourquoi je dis capacité? Parce que lorsque vous créez des des euros, mettons, pour financer la dette publique, pour permettre de payer les intérêts, que ces euros servent à rémunérer le fonds souverain norvégien, par exemple. Mmh. Il arrive un moment où le fonds souverain norvégien, il dit, mais en échange de ces euros, donnez-moi des dollars. Et donc, c'est là que la Banque centrale est confrontée à un problème. C'est, est-ce qu'elle a les dollars pour faire face à cette arrivée, effectivement, de demande? Donc,
lorsque... d'une crise de confiance dans la monnaie, en fait.
Oui, et lorsque...
Je pense qu'on en est assez loin sur l'euro.
Mais oui, parce que sur l'euro, vous avez des excédents qui ont été accumulés. C'est-à-dire que les déficits français sont financés, sur le plan des déficits extérieurs, sont financés par les excédents de l'Allemagne et de l'Italie. Et donc il y a ce problème de capacité qui n'existe pas. En revanche, il y a un problème de volonté. Et là, on retrouve l'autre face de la médaille. C'est-à-dire que la Banque centrale, certes, comme elle est partagée avec l'Allemagne et l'Italie, elle a des réserves en termes de devises, elle a une capacité de répondre, mais comme elle est partagée par l'Allemagne et l'Italie, elle a aussi des comptes à rendre à l'Allemagne et l'Italie. Oui. Et je crois qu'un des problèmes sur ce qui va se passer en France, c'est, indépendamment de l'autorité de la technostructure de la Banque centrale, c'est, sur le moyen terme, la réaction des pays frugaux. Moi, je suis frappé des propos de plus en plus virulents que tiennent sur la France, sur la façon dont elle est gérée, sur l'âge de départ à la retraite de pays comme les Pays-Bas et l'Autriche, ça on avait l'habitude, mais la Finlande, la Slovaquie commencent à durcir le discours. Alors je sais bien, quand la Slovaquie dit quelque chose en France, on a... Oui, c'est ça. Oui. Il y a cette célèbre formule de Jacques Chirac qui se permet de dire des choses assez virulentes au commissaire européen slovaque en lui disant « Votre attitude est inqualifiable » et le Slovaque lui répond « Mais c'est pas moi, c'est le Slovène ». Et donc Jacques Chirac découvre avec consternation qu'en Europe, il y a des Slovènes et des Slovaques. Et donc, bon, c'est des gens qu'on regarde avec une certaine forme de condescendance.
Alors c'est en train de changer. Il y a eu un grand discours du président là-dessus.
Voilà, c'est en train de changer parce que ces pays, effectivement, ont des succès, existent, ont des investissements personnels dans le projet européen. Et donc, il y a quand même la nécessité de ne pas trop les froisser.
Oui. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus?
Non, je voulais juste revenir sur un point. Dans ce que dit Jean-Marc, on met en cause le fait que la Banque centrale, en fait, joue le rôle de banquier en dernier ressort et évite comme ça les crises. Je voudrais juste rappeler que quand on a fait la Banque centrale, c'était justement pour qu'elle fasse pas ça et pour confier la gestion de la dette aux marchés financiers. En disant, si les pays s'endettent trop, les marchés financiers vont augmenter les taux d'intérêt et donc ça va cesser. Et c'est exactement ce qui a conduit à 2008. Et donc on est revenu à un besoin d'un financeur en dernier ressort qui est la Banque Centrale Européenne. Alors, moi je me réjouis de ça. Bien sûr que je me réjouis de ça.
Vous pensez bien, oui.
Bien sûr que je me réjouis de ça. Parce que si on n'avait pas ça, on serait où? On serait où? Hein? Et dans l'après-Covid, on serait où? Voilà. D'où le besoin de régulation, simplement. Alors après, il y a des questions sur jusqu'où va cette intervention, comment elle se fait, etc. Mais le principe de rétablir une intervention publique, entre guillemets, et de retirer les choses sérieuses des marchés, des mains des marchés financiers, est essentiel.
Vous êtes d'accord, Jean-Marc Daniel?
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Moi, je suis quand même d'accord avec une remarque. Alors, c'est du contrefactuel, mais où serions-nous?
Ben oui.
Compte tenu des trois années qui viennent de s'écouler. Oui, où serions-nous si...
Et de 2008.
Non, c'est-à-dire qu'effectivement, l'édifice est conçu au départ pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait des garde-fous à l'attitude des États, sachant que...
Ah ben, c'est très efficace, la sanction du marché. Hein. Souvenez-vous, oui, Italie 2011.
Oui, oui. Non, mais
c'est chaud.
La Banque centrale avait été créée initialement, effectivement, donc à l'époque des physiocrates, la première banque centrale qui a été créée en France l'a été par Turgot, et elle avait comme mission cette caisse centrale d'escompte d'acheter la dette publique, la dette publique. Bon, après on s'est aperçu que effectivement il y avait une forme d'excès qui pouvait apparaître, et surtout à l'époque la banque centrale elle-même elle avait une sorte de garde-fou, c'est que elle gérait un stock d'or. Bon, tout ça a explosé, et donc on a créé un nouveau système. Un nouveau mécanisme dans lequel effectivement la Banque Centrale est là pour assurer la trésorerie en quelque sorte des États, puisqu'elle achète, elle rachète, elle achète pas, mais elle rachète.
Non,
mais à condition que les États...
Oui, on va pas marché secondaire, effectivement.
À condition que les États respectent certaines règles.
Ben là...
Et donc, les États auraient dû respecter, où serions-nous si les États avaient respecté les règles. Eh bien, nous serions dans une situation beaucoup plus favorable. Si la France, au lieu de signer des traités et de s'asseoir dessus en disant, là aussi, je vais citer Jacques Chirac, quand on lui dit, mais vous savez, on a signé les traités, on doit le pacte de stabilité et de croissance, on doit avoir 3% de déficit au grand maximum et tout ça, et il dit, mais enfin, Bruxelles, ils vont pas nous envoyer les déchards. Ils en ont pas. Et donc, cette espèce de cynisme est, à mon avis, beaucoup plus négatif que la régulation par le marché. Cette espèce de cynisme de l'autorité publique qui consiste à on y va quoi qu'il arrive, et puis de toute façon, personne
nous la fin sur ce sujet, Benjamin, si vous voulez.
Oui, on va changer
bon.
De sujet.
Mais... Non, je termine pour les trois minutes qui restent.
Comment ça
J'ai l'impression que tout est bien qui finit bien, messieurs, parce que voilà, l'inflation se calme en zone euro, elle se calme en France, elle se calme en zone euro, tout pousse à croire que forme de pic a été atteint. Jean-Marc me dira que ce n'est pas de l'inflation au sens académique du terme, très bien, mais la Banque Centrale Européenne nous dit ce que tous les économistes souhaitent, enfin en tout cas beaucoup, depuis maintenant un certain temps. On monte les taux pour la forme, on va pas trop loin, on garde des taux d'intérêt réels bien négatifs, et voilà, on s'arrête à l'été, on les laisse tranquilles pendant quelques mois, et tout est bien qui finit bien, Jean-Marc. Voilà, c'est la fin du film.
Oui, non, mais deux remarques par rapport à ça. D'abord, encore une fois, la seule fois où j'étais d'accord avec les banques centrales, c'est quand elles ont dit il n'y a pas d'inflation, ce sera temporaire.
D'accord.
Et c'est ce qui se confirme. Malgré, à l'époque, les cris, les sarcasmes, les tout ça, je pense qu'effectivement, tout ça n'aurait été que temporaire. La deuxième, je pense que l'opération qui a été menée était une opération qui visait à corriger, effectivement, une politique qui était devenue absurde de taux d'intérêt négatif.
Et ça, c'est corrigé.
Période-là aura permis effectivement de revenir à une logique, à une sagesse qui consiste à considérer que le temps a une valeur, qu'il faut le rémunérer.
Et le risque a une valeur. Ok, bon.
Je suis plus sceptique que ça.
Sceptique à quel sujet ?
De savoir si l'inflation est purement temporaire et si elle va revenir ou pas. Parce que cette inflation, on le sait tous, elle a trois causes. Hein. Elle a la rupture des chaînes de valeur, hein, post-Covid, la guerre en Ukraine, qui a accru encore tout ça. On peut rajouter d'ailleurs un troisième élément, donc il y en a quatre, la guerre que mènent les États-Unis à la Chine et les ruptures, la guerre économique, et les ruptures que ça provoque. Puis le quatrième élément, il faut quand même dire un mot, puisque ça vient même de l'Union européenne, c'est que c'est une inflation tirée par les profits. C'est assez nouveau quand même, hein, cette histoire. Hein. C'est assez intéressant, je trouve. Hein, parce que le débat, il a eu lieu sur la spirale, inflation, salaire, machin et tout. En fait, c'est une inflation tirée par les profits, parce que dans ces circonstances-là, les grands groupes, notamment alimentaires, en ont profité pour augmenter leurs marges de manière éhontée.
Hein, on n'a pas beaucoup de chiffres aujourd'hui hein, sur les marges.
Si, on a des chiffres, on a ceux qu'a donné le rapport de la BCE, plus tous ceux qui sont faits par...
Et donc il faut marquer une pause, quelle est la conclusion de ce que vous me dites
Alors vraiment. La conclusion de ce que je dis, c'est que ça va dépendre de ces trois ou quatre éléments à venir, et que comme ce ne sont pas des éléments sur lesquels on a une vraie prise... sur comment ils vont se développer, on n'est pas du tout sûr de qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, moi, je dis, je suis pas du tout sûr de ce qui va se passer.
D'accord. On va marquer une pause. On va on marque une pause.
Il faut quand même.
Non mais
ne soyons pas que ce soit pas un dialogue entre.
Non, bien sûr.
Et moi.
Bon, est-ce qu'on doit faire du protectionnisme, osons les mots, en Europe, compte tenu de ce que font les Américains et la Chine? Et puis, le satisfecit de Thierry Breton aujourd'hui dans les colonnes du Figaro sur cette capacité de l'Europe à réguler. Ah, on va réguler, Benjamin Coréen. Mm-hmm. À tout de suite. Mm-hmm.